Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BAC FM. Nous sommes Elisadette et Mathis Chartier, lycéens à Raoul Follereau. Aujourd'hui, émission consacrée à la semaine de la presse à l'école. Et pour cela, notre invitée est journaliste et présentatrice pour France Culture. Elle est également engagée auprès de nombreuses associations défendant le vivre ensemble, entre autres. Bonjour Nora Hamadi.
Bonjour.
Vous êtes présente avec nous suite à l'organisation d'un voyage humanitaire par le lycée Raoul Follereau en collaboration avec Amnesty International qui a permis à une dizaine d'élèves du lycée de se rendre à Calais, une zone de transit pour les personnes en situation d'immigration. Vous avez justement eu un rôle dans cette aventure puisque vous avez échangé longuement avec les élèves sur leurs ressentis. On va bien évidemment revenir sur ce voyage. Juste avant, nous allons évoquer votre vie professionnelle puis votre parcours qu'on a rapidement présenté en intro.
Donc, il y a énormément de choses. Vous êtes partout. première question, est-ce que vous avez peur de l'ennui?
C'est une très très bonne question. Et là, vous me séchez. Est-ce que j'ai peur de l'ennui? Non, j'ai pas peur de l'ennui parce que j'aime bien m'ennuyer. En revanche, je crois que j'ai un problème avec le vide. Mmh. J'ai littéralement physiquement peur du vide. Donc, vous me ferez jamais faire, par exemple, de la haute montagne. J'ai peur de monter sur un escabeau. Je ne vais jamais sur les balcons de mes amis qui sont au-delà du quatrième étage. Donc peut-être que c'est lié à ça, de manière très symbolique. Mais c'est une très bonne question de départ.
Vous menez de nombreux combats. Est-ce que ces combats guident vos aventures professionnelles?
Je sais pas, je dirais pas qu'ils guident, en revanche ils nourrissent, ça c'est certain. Moi par exemple, je traite des questions européennes depuis maintenant plus de 15 ans. C'est pas mes activités sur le terrain, notamment auprès de publics en difficulté ou de quartiers populaires qui m'ont emmené à ça. C'était plus une nécessité de comprendre ces espaces macro, ce que j'appelle macro, c'est-à-dire vraiment où la politique, elle se fait d'un point de vue géopolitique, c'est de la diplomatie, c'est des liens entre les pays, etc. Ça, j'avais besoin d'aller dans ces espaces-là parce que ça m'intéresse, parce qu'en fait, c'est là que se jouent aussi tous les rapports de force du politique. Mais tout ça, en fait, est nourri de mes expériences de terrain, parce que j'ai la chance, du coup, de pouvoir être dans deux espaces qui semblent antagoniques, sauf qu'en fait, et qui se regardent souvent un peu en chien de faïence, sauf qu'en fait, ils sont censés fonctionner ensemble. Les gens qui sont censés nous représenter et travailler à créer de la loi, à créer des politiques publiques, ils sont censés le faire pour nous. Sauf qu'on se rend bien compte que parfois, et moi je l'ai beaucoup expérimenté ça, il y a quelque chose d'un éloignement tel de ces réalités, des vrais gens, et je ne dis pas que les élus sont des faux gens, c'est pas ça, mais plus on monte haut dans les hiérarchies institutionnelles, et notamment l'Union européenne, comme les espaces de diplomatie multilatérale, l'ONU, etc., peuvent en faire partie, plus en fait les gens auxquels on s'adresse peuvent être très éloignés, et cette réalité-là, il faut leur rappeler. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir les deux pieds pas au même endroit. Un, je dirais, dans la boue, sur le terrain. Alors la boue n'étant pas ce que ça signifie de notre réalité, mais quelque chose de l'ordre d'un ancrage réel, avec des gens, comme on peut le faire ici au lycée, et de l'autre, en fait, dans des espaces de pouvoir qui ont peut-être plus assez, justement, ce lien avec le terrain.
Donc, vous dites que vous travaillez notamment le thème de l'Europe, car vous êtes spécialiste des questions européennes. Vous avez animé des émissions comme Enquête d'Europe et Drôle l'Europe sur France Info.
Quel regard portez-vous sur l'actualité de la guerre en Ukraine, notamment avec le plan annoncé pour réarmer l'Europe? Cela constitue-t-il un tournant dans l'histoire européenne?
C'est clairement un tournant. Moi, j'ai commencé à traiter des questions européennes. Vous n'étiez pas né puisque c'était en 2006. Et à l'époque, en fait, il y avait vraiment cette idée extrêmement ancrée chez les responsables européens au plus haut niveau, en fait, que l'Europe s'était gagnée et qu'on allait garder très longtemps ce qu'ils appelaient les dividendes de la paix. J'entendais encore beaucoup « l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la paix ». Sauf que il y a eu quelque chose qui a été aussi un moment de bascule, c'est 2005, le référendum sur le traité constitutionnel, où les Français et les Néerlandais votent non. Et pourtant, malgré ce refus de cette constitution européenne, en 2007, à son arrivée au pouvoir, Nicolas Sarkozy, en tant que président, décide malgré tout de la mettre en œuvre et de l'appliquer. Et derrière, s'en est suivi, alors c'est pas forcément lié, mais une succession de crises qui ont profondément affaibli le rapport des Européens que nous sommes, au sens continental du terme. L'Europe, c'est pas qu'un projet politique, c'est d'abord un continent. c'est des frontières communes, c'est aussi des valeurs et une histoire commune, une histoire qui est aussi une histoire de guerre. L'Allemagne, avant d'être dans cette idée de couple franco-allemand, avant d'être un couple, on s'est largement fait la guerre. Et donc, cette construction, elle a permis ça. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre d'une fracturation complète de 80 ans d'histoire. Se dire aujourd'hui que l'état du monde, l'ordre mondial, né de la Seconde Guerre mondiale avec l'allié américain, le parapluie de l'OTAN, et cette capacité que pouvaient avoir les Européens à se dire « nous, nous sommes un territoire de paix et c'est immuable et c'est pour tout le temps », là, ça y est, ça se fracasse. Et en fait, il était temps. Parce que cette idée-là, en fait, elle avait commencé déjà à émerger. Moi, je me souviens, dès les années 2010, parce que l'Europe était attaquée, et ce, en interne, par des Européens eux-mêmes qui disaient « mais en fait, l'Europe, elle nous détruit, elle nous met en concurrence les uns avec les autres, elle a ouvert les frontières, on a certes l'espace Schengen, mais on a surtout un espace de dérégulation qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'Europe à beaucoup de gens, c'est plutôt un espace qu'on refuse. » Et donc, voir aujourd'hui... Moi, je suis profondément européenne, même si ce n'est pas de cette Europe-là que je voudrais, parce qu'on est sur une Europe qui est profondément libérale, qui a accompagné un mouvement de mondialisation et de dérégulation tel qu'aujourd'hui... Et on est ici dans la Nièvre et vous avez vu certainement ce qu'on appelle des travailleurs détachés venir sur des marchés publics ou sur des marchés quels qu'ils soient à la place en fait de gens qui pourraient ici travailler et qui sont au chômage parce que ils sont plus chers, parce que le coût du travail en France est plus cher. Bah en fait tout ça, ça a attaqué en fait le ciment européen. Et aujourd'hui là, ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine, c'est qu'en fait on retrouve un ciment peut-être pour ce qui est essentiel entre nous, c'est-à-dire garantir un espace sécure, une paix durable, et peut-être arrêter de nous faire concurrence, comme cela a été le cas quand on avait la possibilité de déréguler et de faire venir des gens de Roumanie. Aujourd'hui, par exemple, vous avez toutes les 7 minutes un habitant qui se barre de Roumanie, qui quitte la Roumanie. Les pays de l'Est, en fait, traversent ce qu'on appelle un hiver démographique, et c'est à cause... en partie de l'Union européenne, parce que cette dérégulation, elle a conduit les pays les plus pauvres et les habitants des pays les plus pauvres à chercher en fait des possibilités à l'ouest de l'Europe. Et plutôt que de créer un espace d'équilibre entre les États, on a déséquilibré tout ça en laissant une concurrence libre et non faussée. Mais en fait, ça n'existe pas. Donc là, ce qui est en train de se passer, notamment avec l'Allemagne qui va se réarmer, avec peut-être la possibilité de mettre en place 800 milliards d'emprunt pour financer une défense européenne commune. Là, il y a quelque chose d'un changement de paradigme qui est nécessaire parce que Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. La Pologne, là, se dit prête. Les pays baltes sont en panique. La Finlande a adhéré à l'OTAN exactement pour ça, parce que la Finlande a été en guerre avec la Russie pendant quasi 100 ans. Donc, ce grignotage-là, cette petite lèpre que Poutine est en train de créer, elle ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Et c'est ça, en fait, qu'il était nécessaire de créer comme espèce d'effet de blast. Quand on parle d'effet de blast, c'est l'effet d'une bombe, en fait. C'est ce moment où vous faites face à la réalité et là, d'un seul coup, vous ne pouvez plus ne pas la regarder en disant « mais non, ça ira ». Mais on verra, parce que là, en fait, pour l'instant, on a des mots. Il va falloir passer aux actes. Et pour ça, en l'état, on n'est pas capable de se réarmer en étant dans une forme de souveraineté. On n'a pas les filières nécessaires aujourd'hui pour se garantir une défense européenne, véritablement européenne, avec des entreprises européennes, avec des armes européennes. Et après, ce qui me gêne aussi, parce que je ne suis pas une vatte en guerre, c'est qu'est-ce qu'on crée aussi comme condition pour éviter l'escalade, pour vous qui avez encore peut-être des cours d'histoire. Voilà, il faut se replonger dans les années 30. Moi, quand on me dit 800 milliards en fait, pour se réarmer, la course aux armements, on sait, dans les années 30, il y a un siècle, où est-ce que ça nous a mené? Est-ce qu'on veut revenir à ça?
Donc, vous avez un peu répondu déjà, mais comment voyez-vous l'évolution de l'Europe, donc à travers les conflits et l'évolution politique qui l'entoure?
Alors là, la question, c'est est-ce qu'on va véritablement aller vers des formes de fédération? Je ne crois pas. Je crois qu'on est en train d'inventer un nouvel espace où on va mettre en commun les leviers nécessaires parce qu'on doit faire ensemble, typiquement peut-être la transition énergétique, si toutefois on y revient, parce que là on voit bien qu'en termes de priorité, ces questions écologiques, elles sont renvoyées au calendrier grec, ce qui est dramatique, dramatique. On voit les questions de défense, on voit les questions d'industrie, on voit, et ça c'est quand même assez important, que l'Europe, elle a fait corps contre les États-Unis, contre Vladimir Poutine, contre les États-Unis, c'est-à-dire contre Trump, quand Trump, en fait, maltraite littéralement Volodymyr Zelensky. Là, l'Europe a fait corps et l'Occident a fait corps parce que les Britanniques ont aussi été de ce côté-là, les Canadiens, les Australiens, donc il se passe quelque chose. Maintenant, est-ce qu'on va aller vers une fédération ? Je crois pas, même si du côté des conservateurs européens, il y a peut-être quelque chose de cette petite musique qui est en train d'évoluer. Ils n'en étaient pas du tout là, mais il y a quand même une volonté, je pense, de mettre en commun des savoirs, des savoir-faire, des expertises, et puis une mécanique aussi de moyens, mettre des moyens en commun pour s'offrir une défense, parce que, par exemple, là, l'Allemagne va mettre 1000 milliards sur la table, dont 500 milliards pour les infrastructures, 500 milliards pour l'armée. Eux, ils n'étaient pas du tout... Enfin, voilà, c'est un pays qui n'avait quasi plus d'armée. Là, on parle d'un parapluie nucléaire européen sous l'égide de la France. Est-ce que les Britanniques en feront partie puisque les Britanniques ne font plus partie de l'Europe ? Enfin, en fait, là, on est vraiment dans une logique de plaque tectonique. Tout est en train de bouger. C'est des séismes de toutes parts. Et on est en train d'écrire vraiment un nouveau chapitre. Après, est-ce que on sera capable d'aller au bout ? Le Covid nous a montré que les Européens, quand ils sont unis, ils sont capables de traverser les crises. Jean Monnet disait, parce qu'on dit toujours « Ah, l'Europe s'effondre ». Jean Monnet, donc un fondateur de l'Europe, disait « L'Europe sera une succession de crises et de réponses successives à ces crises ». Et en fait, on avance dans la construction européenne à la faveur des crises. Et c'est ça qui est génial, c'est de voir que malgré les crises, on continue malgré tout d'avancer. Alors, il y a des choses qui devraient être rectifiées, notamment la place des... ce que je disais sur le travail et la concurrence, pour pas qu'on se fasse concurrence les uns les autres, parce que ça affaiblit littéralement l'Europe. Mais pour autant, il y a des choses qui nous permettent de consolider un socle commun.
Nous allons désormais quitter l'Europe pour la Nièvre, Nevers plus particulièrement, ville
que
vous
j'aime.
Connaissez bien, pour y avoir organisé plusieurs actions, notamment sur les droits humains. Quel lien avez-vous avec la cité ducale ?
J'adore cette ville. Alors, c'est arrivé complètement par hasard. Il y a plus de 10 ans, oh là là, je ne sais même plus les dates. Je crois qu'on était en 2013, peut-être 2012, je ne sais même plus. À la faveur d'ateliers au Pac des Ouches, regretté Pac des Ouches, qui était dans qui était un centre, une espèce de maison de quartier, en accueil décloisonné pour les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, en centre-ville, je viens et j'interviens dans un atelier. Et le feeling passe tellement avec les jeunes que Nadia, qui s'occupait du centre à l'époque, me dit « Écoute, Nora, on fait pas mal de choses sur les droits humains en coopération avec Amnesty International et la FOL, donc la Fédération des œufs de la Nièvre. Et si ça t'intéresse, on cherche quelqu'un pour nous accompagner en fait là-dedans. » Et là, je me dis « Ah, oh, c'est génial, ça voulait dire accompagner des jeunes à travailler sur ces questions de droits humains. » En partant de ce levier qui est tout, qui est la presse et le journalisme. Et là, on a fait des trucs incroyables. Un festival des droits humains chaque année à l'espace Stéphane Hessel qui est à la Grande Pâture, où c'était les jeunes en fait, qui interviewaient des sommités, des chercheurs, des journalistes. Un public qui était hyper important, des mamans, des papas, des familles, des gens qui étaient du milieu associatif nivernais, qui est un milieu associatif moi que je découvre, et la Nièvre pour ça c'est extraordinaire. C'est une terre d'une richesse en fait et d'un dynamisme. Donc j'étais là quoi, un week-end par mois, et puis ajouté à ça les voyages, Calais évidemment, qu'on a fait, la Bulgarie, des camps de réfugiés. Parce que au moment où moi je reprends vraiment le bazar, on est en plein dans la crise de l'accueil des réfugiés et la Nièvre en a accueilli, puisque du coup dans l'atelier j'ai une petite pensée pour certains des jeunes qui étaient là et qui étaient eux-mêmes issus en fait de cette migration syrienne et qui sont venus s'installer ici. Je pense à Maher notamment que j'ai connu, il était arrivé 3 mois avant en bateau de la Turquie, il avait conduit lui-même le bateau via l'île de Lesbos, ils ont traversé une partie de l'Europe à pied avant d'arriver dans la Nièvre, il parlait pas un mot de français et puis il est arrivé dans cet atelier-là et on l'a emmené, il est venu avec nous dans des camps de Roms en Bulgarie, on a été en Grèce, on a été en Sicile et cette dynamique d'action avec des jeunes qui faisaient, ça les a je crois déplacés, moi ça m'a déplacée, hein. Vraiment j'ai vécu des trucs, c'est des souvenirs incroyables. Et donc, alors l'atelier s'est arrêté à mon grand dam, J'étais là quand même très souvent, à un point où on se disait qu'il fallait peut-être que j'arrête de prendre des chambres d'hôtel et qu'il serait peut-être plus rentable que j'achète un appartement à Nevers. Ça s'est pas fait. Mais du coup, je garde un lien hyper fort. Voilà. Donc, mon lien avec la Cité du Cal, c'est ce petit truc de revenir, de me prendre la pluie et de me dire « Ouais, mais quand même, j'aime bien.
» Donc, nous l'avons déjà dit, donc vous avez accompagné des élèves niversois dans le cadre du voyage à Calais. Donc, nous n'avons pas eu la chance de vivre cette expérience.
Quel dommage, mais il y en aura d'autres.
Ah, oui, l'année prochaine, peut-être. Comment pourriez-vous nous décrire ce moment ?
Ce moment, c'est toujours... moi, j'ai beaucoup de tendresse, en fait, parce que c'est pas la première fois que je le vivais, puisque du coup, j'ai accompagné, moi, des jeunes de la Nièvre dans ce même dispositif quelques années auparavant. Et ce qui est génial, c'est de voir à quel point le fait d'être, là, littéralement dans la boue, en fait, de voir ce que ça signifie d'être bénévole, de faire de l'humanitaire au plus près des exilés. Et c'est là que je vais faire un lien avec la première partie de votre entretien sur l'Europe, c'est que Calais, c'est une frontière extérieure de l'Europe, au même titre que Lesbos, que Lampedusa, voilà, et que la Méditerranée centrale. On est face en fait à la question migratoire qui percute l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle souvent des frontières sud, mais il y a aujourd'hui la frontière nord, et la frontière nord, c'est Calais. Et cette frontière nord, en fait, elle est basée en France parce qu'il y a des accords bilatéraux avec la Grande-Bretagne qui s'appellent les accords du Touquet, qui fixe la frontière ici, à Calais, sur le territoire... qui fixe la frontière sur le territoire français. C'est donc à nous, Français, de sécuriser cet espace. Et depuis 30 ans, 40 ans, cette frontière est aujourd'hui percutée par ces enjeux. Il y avait jusqu'au milieu des années 2000 un camp, un véritable camp de réfugiés, à Sangatte, que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, décide de fermer. Derrière, il y a eu la jungle. Moi, c'est ce que j'ai connu, au plus fort de la jungle. Avant son démantèlement, c'est 15 000 personnes, c'est une ville dans la ville, c'est une lande, c'est de la boue. Mais c'est ses commerces, c'est ses tentes, c'est aussi des bénévoles là, aussi du Calaisis, du Dunkerquois, des gens venus du monde entier pour venir aider. Et ce qui est beau à voir à chaque fois, c'est qu'on a toujours une connaissance finalement très cryptique de ces questions parce que les médias nous donnent à voir quelque chose de très parcellaire, de très partiel. On parle de flux migratoires, on parle d'incapacité à juguler ces flux comme si c'était en fait des vagues, enfin comme voilà, et en fait réhumaniser ça crée quelque chose qui est extrêmement violent, et c'est ça qui est intéressant dans ce moment là et c'était ça qui était très beau, en fait, enfin beau pas au sens mais on se dit qu'il y a quand même en fait encore une part d'humanité en nous, parce que faire face à la détresse, à la misère et à la réalité de ce que cette question migratoire produit et de ce que la frontière fabrique comme violence institutionnelle, sociale, économique, voir des gens qui vivent sous des tentes, dans la boue, quand on y était, il faisait quoi, 2-3 degrés, il pleuvait des cordes. Et vous avez des jeunes gens qui ont peut-être votre âge, qui ont traversé toute l'Afrique, qui sont arrivés par la Méditerranée centrale sur un rafio, qui ont traversé ensuite toute l'Europe, et qui vous disent, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, je traverserai, et je traverserai en bateau pour aller rejoindre la Grande-Bretagne, et on sait aujourd'hui le nombre de morts que c'est dans la Manche, ça vous déplace, c'est ce qui s'est passé avec vos camarades, ça les a heurtés, déplacés, parce que d'un seul coup, vous vous rendez compte de... Voilà, les droits humains, c'est pas quelque chose juste de la Constitution, d'une charte, c'est des droits réels. Voilà, quand on vous dit, par exemple, que l'accès à un point d'eau n'est pas possible et qu'on interdit les distributions de repas pour les associations parce que ça fait des points de fixation. Quand vous faites face à des gens qui doivent faire leurs besoins en pleine nature, quand il fait froid et que vous les voyez en claquettes, que vous avez une assiette à distribuer mais qui sont 8, à qui vous la donnez cette assiette ? Et ça crée un truc. Et c'est ça que j'ai eu l'opportunité de voir et de revoir, parce que je l'avais déjà vu. Et ça, c'est une expérience qui marque. Ça vous déplace et ça vous déplace à vie.
Qu'avez-vous retenu du regard lycéen sur un lieu comme celui-là ?
C'était un regard d'une profonde humanité. Et c'est ça qui est beau, c'est que malgré le discours ambiant qui est quand même très putride autour des migrants, qu'on déshumanise, à qui on renvoie la réalité de tous nos maux aujourd'hui en France, chômage, insécurité, etc. En fait, là, vous faites face à des humains, à des gens qui vous ressemblent. Et leur regard, c'était celui-là, c'était... Alors, d'une part, une profonde impuissance, ce qui rend les choses extrêmement violentes aussi pour les bénévoles qu'ils étaient, et qu'ils sont en général, parce que on se donne, voilà, on donne de son temps. Ils ont quand même pris une semaine de vacances scolaires. Et c'est énorme, en fait. On ne se rend pas compte. Mais prendre une semaine sur ses vacances scolaires pour aller couper du bois, trier des vêtements, faire des maraudes par 3 degrés sous la pluie, c'est pas rien comme don. Et en fait, donner de soi, c'est quelque chose... Une fois qu'on a goûté à ça, c'est compliqué. En fait, on n'arrête jamais. C'est pour ça que je vous dis que ces expériences-là, elles déplacent la vie, en fait. Donc, avoir la chance de faire ça à 17 ans, c'est génial. Parce que c'est une expérience qui vous marque et qui vous déplace profondément. Et après, le regard lycéen, c'est un regard d'un profond humanisme. Parce que vous êtes aujourd'hui dans un âge, et c'est génial, où vous expérimentez le réel. Et le réel, il est, et surtout depuis quelques années, moi, j'ai pas eu ce réel-là. Enfin, voilà, moi, je suis d'une génération où c'était plus doux quand même. Et grandir maintenant, je trouve ça hyper dur. Et du coup, être en capacité de se confronter à cette réalité-là et à la réalité des politiques qu'au-dessus on met en place, ça vous forge. Et cet humanisme-là, parce que ces droits humains, en fait, vous les vivez dans votre chair. Il y a une émotion, il y a des rencontres. Du coup, je pense que ce regard-là, il est profondément sensible et c'est hyper important. Et ce qui serait génial, c'est que tout le monde puisse le faire, parce que je pense qu'il n'est pas... On peut pas raconter ça. C'est ça qui est difficile. C'est que ça se raconte... Enfin, on a beau le raconter, en fait, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil que de le vivre.
Différents volets donc étaient abordés, j'imagine, comme le journalisme, la citoyenneté, les droits humains, le vivre ensemble. C'est par des exemples concrets comme celui-là que les jeunes prennent conscience de ces enjeux.
Oui, parce qu'en fait, à un moment... moi, je me suis tellement ennuyée à l'école. Tellement. J'étais plutôt une élève moyenne, dissipée, et je me suis vraiment fait chier. Pardon, hein, je suis grossière, mais je me suis vraiment fait chier. Et je pense que typiquement, c'est le genre de choses qui vous permet d'ancrer un propos. Quand on vous parle Attends, c'est GGSP, c'est ça ?
AGGSP.
AGGSP. C'est quoi déjà le nom
Histoire, géopolitique et sciences politiques.
Voilà. Encore un truc que je disais tout à l'heure, on dirait le nom d'une maladie. AGGSP. Quand on vous parle de droits humains en AGGSP, quand on vous parle de frontières, quand on vous parle de construction européenne, etc. Honnêtement, est-ce que ça vous parle ? Après, les profs essayent comme ils peuvent, mais on est quand même dans une logique où c'est comme si tout ceci était finalement désincarné, comme si tout ceci ne nous touchait pas, alors que c'est des choses qui nous touchent. Quand on est en dehors d'une frontière, demandez-le à vos camarades peut-être que vous connaissez qui sont issus de l'immigration, dont deux qui étaient dans cette petite équipe. Qu'est-ce que c'est en fait de naître apatride, de naître au Proche-Orient, de naître en Afrique subsaharienne ? On n'a pas les mêmes droits. Moi, j'avais une connaissance, par exemple, il y a un voyage dans ma vie qui m'a vachement marquée. J'ai été au Proche-Orient, en Israël, Palestine, il y a une quinzaine d'années. J'avais beau avoir entendu parler, avoir lu plein de trucs et compagnie, et on vous parle de ce conflit à l'école. Mais quand vous expérimentez, en fait, ce que c'est qu'une frontière, ce que c'est qu'un checkpoint, ce que c'est que de descendre d'un bus et d'être fouillé, ce que c'est que moi, en tant qu'Européenne, parce que j'avais un passeport français, avoir plus de droits que le Palestinien de Ramallah qui allait travailler à Jérusalem, moi je l'ai vécu ça, avec des militaires de votre âge, de 18-19 ans, qui vous pointent une arme devant, voilà. Et ça en fait, ça ne remplacera jamais cette expérience-là. On a beau raconter, on a beau essayer de vous faire comprendre la réalité et le côté très palpable de cette politique, au sens macro du terme, rien ne vaut l'expérimentation et le fait d'aller voir la frontière. Calais, moi j'y suis allée 5-6 fois depuis une dizaine d'années. Là encore, je suis arrivée, c'est une prison à ciel ouvert, c'est des murs et d'autres murs. Et au milieu de ces murs, il y a encore des murs. C'est 36 000 km de barbelés. C'est aujourd'hui pour empêcher que les migrants passent par les ferries, dans les camions. C'est des caméras partout, c'est des détecteurs, c'est des brigades canines, c'est des brigades équestres, enfin, c'est des chevaux sur la plage, c'est des détecteurs de battements de cœur au travers desquels passent les camions, c'est des détecteurs en fait de chaleur. On est dans une dystopie complète en fait. Enfin, c'est un espèce d'Alcatraz à ciel ouvert. Et là-dedans, dans les interstices de cette espèce de prison, il y a des gens qui vivent, des Calaisiens, des Calaisiennes qui vivent cette réalité. C'est des gens, le taux de chômage à Calais, c'est quasi 1 sur 4. Et on vient ajouter une misère à la misère, en fait. Donc, et c'est ça qu'il faut expérimenter. C'est qu'en fait, il faut le voir. Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est que malgré tout ce qu'on peut en dire, il y a une générosité extraordinaire de la part des gens sur place. En fait, on aura beau vous montrer des reportages, voilà, allez voir, ça n'a pas la même saveur. Ça n'a jamais la même saveur parce que ça vous permet véritablement d'expérimenter, mais au sens charnel du terme, les choses. Et il y a des émotions. Et ces émotions-là, on ne peut pas les vivre. Et ce n'est pas même votre prof, s'il est parfait, s'il est passionnant, ce n'est pas pareil.
On va parler de votre parcours maintenant. Quel parcours avez-vous suivi exactement pour devenir journaliste?
Alors, je voulais pas être journaliste. Moi, j'ai été prof de sociologie et au hasard d'une rencontre, en fait, parce que je fais un remplacement dans un journal national qui s'appelle Le Parisien aujourd'hui en France. J'ai un chef de service à l'économie qui me dit oh, écoute, Nora, qu'est-ce que tu nous fais chier à vouloir faire de la recherche? Tu poses des questions plus intelligentes que la moitié de mon service. Et c'est lui qui me dit, t'es faite pour ça. Et moi, j'ai pas fait d'école, puisque j'avais pas les moyens de... Voilà, j'ai travaillé pendant toutes mes études. J'ai été pionne, d'ailleurs, dans un lycée. J'ai traumatisé quelques générations d'élèves comme vous. C'était super, le carnet de correspondance. J'ai adoré ça. Donc, il était hors de question pour moi de reprendre une école de journalisme. Mes parents avaient pas les moyens. Moi, j'avais pas les moyens non plus, en fait, parce que ça voulait dire arrêter pendant 2 ans, ne pas travailler. Et donc, j'ai commencé à solliciter des stages un peu partout. Et puis, ça s'est fait comme ça, en fait. Alors, les stages, j'en ai chié. Hein. J'ai fait beaucoup de stages en travaillant à côté. Donc, ça a demandé beaucoup de sacrifices. Et finalement, j'ai appris sur le tas. Mais c'est un peu... Enfin, vous, là, objectivement, pas besoin d'école. Ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà du journalisme. Mmh. Donc, l'école de journalisme, elle vous apprend quoi? Une forme d'éthique, la nécessité de faire du contradictoire, des techniques rédactionnelles de base. Mais en fait, vous le savez déjà. Là, vous êtes très bien. La manière dont vous présentez les choses. Donc voilà, vous êtes juste trop poli pour m'arrêter, alors que moi, si j'étais à votre place, j'aurais déjà dit, maintenant tu réduis.
Justement, quel est pour vous le rôle du journalisme dans la société moderne?
Le rôle du journaliste, c'est d'être le miroir de l'époque. C'est de raconter ce qu'il voit de la manière la plus équilibrée et honnête possible. Parce qu'on va vous parler d'objectivité, mais ça n'existe pas, c'est un mythe, c'est vraiment le fantasme absolu. Oui, il faut être objectif. Non, on parle toujours de quelque part. Donc, l'honnêteté, l'équilibre, et la nécessité, en fait, aussi de donner à voir un réel qui est souvent invisibilisé. Typiquement, moi, c'est des sujets qui m'intéressent, mais aujourd'hui, à France Culture, j'ai une émission qui est plutôt axée territoire. Alors, les territoires, c'est ce qui a remplacé le mot province maintenant. C'est tout ce qui n'est pas Paris. Mais je m'en fiche, en fait. L'idée, c'est, pour moi, c'est vraiment de donner à voir une France qui est complexe, qui est nuancée. C'est pas les bouseux de province qui sont forcément des agriculteurs versus les urbains bobos, en fait. Tout ça est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe et ça, faut le raconter. Moi, ce qui m'a marqué, par exemple, c'est la manière dont on a traité médiatiquement les Gilets jaunes, qui était un véritable mouvement politique. Et à qui on a dénié ce droit d'être un mouvement politique parce que, souvenez-vous, enfin vous étiez peut-être un peu jeune, mais il faut quand même se replonger dans le traitement médiatique de l'époque et des premières manifestations où on disait, ouais, c'est encore des gros beaufs du périurbain et du rural qui veulent pas lâcher leur voiture. Et on a dit, mais en fait, non, c'est des gens, des familles monoparentales, des mères solos qui prennent les ronds-points en disant, on veut juste être digne. On veut pouvoir vivre de notre travail. Et cette petite taxe sur les carburants, en fait, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et le fait de dénier ça, c'est lié à quoi? C'est lié aujourd'hui au fait que les médias sont essentiellement parisiens. La France est un pays très centralisé. Donc, si vous voulez être journaliste, c'est souvent et c'est forcément... Il y a un passage par Paris, ça c'est certain. Et c'est souvent à Paris que ça se passe. Les grands journaux, en tout cas, les grandes chaînes de télévision. Alors, j'aime pas ce terme. Je reprends ce terme, mais il n'y a pas de grandes et de petites. En revanche, je pense qu'il est extrêmement important, quand on voit aujourd'hui la manière dont les rédactions sont constituées, il y a des biais pour faire des écoles de journalisme, elles sont 14, reconnues par la profession. Faut avoir souvent fait la voie royale, c'est-à-dire Sciences Po, et beaucoup Paris. Faut avoir fait et avoir les moyens de payer une prépa pour les écoles de journalisme. Dans beaucoup d'écoles, certaines sont privées, alors certaines sont publiques certes, mais certaines sont privées, il faut payer les concours, il faut payer des droits d'entrée qui sont quand même chers, il faut pouvoir payer une scolarité à Lille pendant 2 ans ou à Strasbourg, enfin, qui peut faire ça? Et surtout, on recrute un minimum bac plus 3, voire, moi j'ai donné des cours en école de journalisme, c'était plutôt un master, c'est-à-dire bac plus 5. Vous imaginez qui peut faire ça? Et malheureusement, on voit que le biais aujourd'hui dans ces rédactions, et moi je le constate dans toutes les rédactions que j'ai faites, c'est que c'est plutôt urbain, plutôt des gens issus de catégories socioprofessionnelles favorisées, voire très favorisées, qui ont pu s'offrir cette trajectoire, ça veut dire 7 ans d'études, avec des parents qui peuvent gérer le fait de vous loger à Bordeaux, à Tours, alors que vous êtes de je sais pas où. Aujourd'hui, alors il y a quelques bourses, il y a la chance, anciennement la chance au concours, qui est une prépa gratuite pour les étudiants boursiers. Mais moi, par exemple, sur une antenne comme France Culture, je suis la seule non blanche de cette antenne. Et je suis avec des gens qui sont essentiellement issus de grandes écoles, qui ont fait Normal Sup, etc. Et donc, ce que vous donnez à voir, je ne dis pas que ce ne sont pas des gens intelligents, ce sont des gens brillants, mais je pense qu'il y a quelque chose de démocratique, en fait. On ne peut pas avoir une presse qui ne ressemble pas aux Français, aux Françaises et aux citoyens. Parce que du coup, ça crée des biais. Quand vous avez essentiellement des gens qui sont issus de l'urbanité, je ne dis pas qu'on n'a pas la sensibilité pour comprendre ce qui se passe dans les ruralités, mais il n'y a pas une ruralité. Ici, on est dans la diagonale du vide, comme dirait l'autre. Ça n'existe pas, la diagonale du vide. Il y a des voilà. Et ça, typiquement, moi, c'est des émissions que je fais régulièrement. Et c'est hyper intéressant, parce qu'il n'y a pas de diagonale du vide, en fait. Il y a des territoires qui sont extrêmement dynamiques et qui fonctionnent très bien, et il y en a d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Alors, la Nièvre en fait partie. Mais il se passe des trucs, et typiquement c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que j'ai suivi vos camarades à Calais, c'est que la dynamique associative d'un territoire comme la Nièvre, c'est aussi ce qui sauvera la Nièvre. Et en fait, il y a des territoires qui sont maltraités par les politiques publiques, par les décideurs, mais il y a des gens qui font beaucoup de choses, et c'est ça qu'il faut visibiliser. Et donc, pour vous dire et répondre enfin à votre question, parce que j'ai digressé comme d'habitude, à quoi sert le journaliste à donner à voir son époque, le réel, et un réel sensible, nuancé, et d'être le caillou dans la chaussure des décideurs. Et c'est peut-être ça aussi qui manque, parce que moi je suis éditorialiste, on me voit beaucoup sur les plateaux type BFM, etc. Et ça, c'est marrant, mais comme on a des gens qui sont issus des mêmes sérails, qu'ils soient du côté des politiques ou du côté des journalistes, bah, y a une forme d'endogamie sociale, c'est-à-dire un entre-soi, qui est problématique, là aussi, d'un point de vue démocratique. C'est pas possible, en fait. Et c'est logique que, du coup, les gens se disent « Ouais, mais il y a les élites, il y a eux et il y a nous. » Bah oui, parce qu'en fait, ce « nous » collectif, c'est 99%, gouverné par ces 1%, bah forcément, ça crée des logiques de rejet. Donc, comment on retisse du lien? Comment on recrée de la confiance? Bah, faut partager le pouvoir. Mais ça, c'est pas pour tout de suite.
Une étude de Viavoz pour les Assises internationales du journalisme de Tours montre que 8 Français sur 10 jugent que le journalisme est utile. Comment est-ce qu'on rend le journalisme utile, justement?
Bah, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. On rend le journalisme utile à partir du moment où on fait exister des gens qui sont invisibilisés. Et comme aujourd'hui, les gens ne se sentent pas représentés dans le journalisme tel qu'il existe, objectivement, là, par exemple, on est en mars, on sort des vacances de février, vous n'imaginez même pas le nombre de reportages qu'on a vus sur les vacances au ski. Qui part au ski? 7% des Français partent au ski. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment... Mais 7% des Français partent au ski, mais 90% des journalistes partent au ski. Donc, c'est ça le sujet. Et c'est comme, par exemple, aujourd'hui, quand on parle des campagnes et des ruralités, on va avoir un sujet sur un agriculteur. Mais en fait, à un moment, il faut arrêter. 6% des ruralités, enfin, des gens qui habitent en zone rurale sont des agriculteurs. Donc, là-dedans, on est dans du fantasme. Donc, comment rendre, en fait, le journalisme plus adéquat, enfin, plus en phase avec le réel? C'est juste qu'en fait, il faut parler de la France telle qu'elle est, des gens et de leur réalité. Et leur réalité, elle est complexe. C'est comme quand on vous dit, on chie beaucoup sur les zones commerciales, en disant, oui, ça a tué les centres-villes. Oui, c'est vrai, mais on nous dit, bah oui, mais il va falloir les éradiquer, c'est pas bien, là. Oui, d'accord, mais en fait, on n'y est pas. Et arrêtez de dire que ce sont des non-lieux. parce que c'est là aussi une vision hyper parisienne presque de ces espaces. En fait, c'est aussi des c'est les nouvelles places du village, qu'on le veuille ou non. L'idée, c'est pas d'avoir un jugement. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans des formes de mépris de classe sur des usages qui sont pas les nôtres. Le barbecue, la bagnole, d'accord, ok. Mais en fait, à un moment, si on veut accompagner des transformations sociales et emmener les gens vers des formes de vie plus écologiques, j'en sais rien, on commence pas par leur chier à la gueule. Et c'est malheureusement, pardon, je suis très grossière, mais c'est malheureusement ce qu'on voit. Et donc, si on doit recréer ce lien de confiance, il faut déjà avoir des gens qui soient à l'écoute dans ces rédactions-là. Et il faut qu'elles soient diverses, pas au sens juste de diversité colorimétrique, diverses au sens social du terme. Il faut qu'on ait des gens qui viennent de partout, qui connaissent toutes les réalités et surtout qui aiment leur prochain, entre guillemets. On n'est pas là pour juger les gens. On est juste là. Moi, je dis pas que je suis là pour mettre la plume dans la plaie. Non, moi, je suis un tuyau. Je suis là pour passer une information de ce que je vois à ceux qui me lisent, voilà, et c'est, ou qui m'écoutent, c'est tout.
Média maintenant, est-ce qu'un média peut encore être libre actuel au niveau de l'apolitisme? Est-ce qu'aujourd'hui en France, il y a des médias apolitiques?
Alors oui, les médias sont apolitiques. Après, il y en a qui ont des lignes éditoriales, pas partisanes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rattachés à un parti, mais il y a des lignes éditoriales. Le Figaro n'est pas Libération. Ça a toujours existé en presse écrite. Ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est très nouveau, mais c'est une dérive à l'américaine, c'est que les chaînes de télévision commencent à être aussi de cette nature. Quand l'ARCOM déplug C8 et Hanouna, est-ce que c'est l'espace de la télévision que d'avoir en fait du discours de haine raciste à longueur de show? Je crois pas, en fait. Maintenant, la question, c'est moi qui m'intrigue, c'est surtout pourquoi ça fait autant un carton? Par exemple, aujourd'hui, aux États-Unis, parce que, mine de rien, on traîne un peu derrière, mais on n'est pas très loin, Fox News, la grande chaîne conservatrice, la chaîne d'info conservatrice, fait plus d'audience que ABC, NBC et CNNBC, donc sont des chaînes plutôt généralistes. Cumulées, les trois chaînes cumulées ne font pas les audiences de Fox News. Nous, aujourd'hui, avec CNews, on commence à voir poindre aussi ce type d'effet, voilà, avec des gens qui viennent débattre, qui déversent des discours de haine à longueur de temps. Moi, ça m'interroge parce que les réseaux sociaux ont créé peut-être aussi ça. Je ne sais pas comment on répond à ça. Je ne sais pas. En revanche, ils ne sont pas partisans. Est-ce qu'il y a une ligne politique? Il y a des lignes éditoriales. Alors oui, hein, on va dire clairement que chez Bolloré, on est plutôt sur du conservatisme, voire sur des discours d'extrême droite pure. Mais là-dessus, je pense qu'on n'est pas armé et en l'état, on ne sait pas quoi répondre. Parce que le pire, c'est que même si vous les dépluguez, même si elles n'existent plus, aujourd'hui, en fait, c'est Twitter avec Elon Musk, c'est les réseaux sociaux, c'est Instagram, c'est des réseaux d'extrême droite qui vous harcèlent. Enfin, moi, j'ai été, par exemple, on a découvert ça pendant les législatives de juillet dernier, mais moi, mon nom s'est retrouvé sur un site d'extrême droite avec un type qui avait fait une liste de gens et qui appelait à nous mettre 2 balles dans la nuque. Et donc aujourd'hui, l'extrême droite et le cyberharcèlement, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai dû déposer plainte. Voilà, donc le truc est toujours en cours. On ne sait même pas où ça en est. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et je ne suis pas la pire. En fait, j'ai d'autres consoeurs et confrères qui en prennent beaucoup plus dans la figure. Mais je n'ai pas de réponse, malheureusement.
Nous arrivons à la fin de cette interview.
Quel dommage, j'ai trop parlé.
Nous allons vous proposer un jeu. Donc, question brève et rapide.
Oui, j'essaye.
Réponse du tac au tac. Est-ce que c'est bon pour vous?
C'est oui, je suis concentrée.
Nora Amadi, votre livre de chevet?
Ah, Le monde d'hier de Stefan Zweig.
Votre slogan préféré?
Venez comme vous êtes, chez McDo.
Votre film préféré?
Ah, c'est dur. Mon film préféré, 588 rue Paradis d'Henri Verneuil sur l'immigration arménienne.
La personnalité que vous rêvez d'interviewer?
Kim Kardashian.
La musique qui vous donne le smile?
Ah, du hip-hop, du vieux hip-hop des années 80-90.
Votre plaisir coupable?
Le plaisir coupable, je sais pas, mon carré de chocolat à 18h, c'est nul.
Votre destination de rêve?
Le Brésil.
Et enfin, Nora Amadi, on termine là-dessus, votre mot préféré?
Mon mot préféré, faire ensemble. C'est deux mots, mais on les colle. Voilà, parce qu'en faisant ensemble, on apprend à se connaître et ça crée forcément un monde meilleur, comme vous. Vous êtes très très fort, hein. Faites pas d'école de journalisme, allez-y, hein. On vous engage.
Merci Nora Amadi d'avoir pris le temps de répondre
à
nos questions.
C'était top.
C'était un plaisir de vous voir ici sur Bac FM.
Mais je reviendrai.
Avec plaisir.